VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Niamey, bienvenue à notre journal. Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger, 18 personnes ont été tuées et 11 autres blessées par des militants de la secte islamiste hier soir à Rogom, village situé près de la localité de Bosso, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria. En plus des victimes, près de 100 habitations ont été incendiées, a affirmé à l'AFP Bako Mamadou, le maire de Bosso. Au Nigeria même, nouveau problème pour le président nigérian Muhammadu Buhari, déjà menacé par les insurgés islamistes de Boko Haram. Le Nigérian est maintenant confronté à une nouvelle poussée séparatiste dans le sud, notamment dans la région du delta du Niger, où des activistes réclament le contrôle des revenus pétroliers. Le sud-est est aussi secoué depuis plusieurs semaines par une nouvelle série de manifestations revendiquant la création de nouvel État au Biafra, 45 ans après la fin d'une sanglante guerre civile déclenchée par une déclaration d'indépendance de cette région. Au Mali, l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, qui a fait 21 morts la semaine dernière, pourrait aussi porter un coup dur à l'économie nationale, déjà mal en point. Les risques sécuritaires pourraient en effet effrayer les investisseurs et les touristes. De Bamako, le reportage de notre envoyé spécial Émilie Yob, dont Michel Joseph nous donne les grandes lignes. Michel?
Les rues de Bamako ont retrouvé leur animation, mais c'est dans les livres de réservation de l'hôtel Radisson Blu que se ressent l'impact de l'attaque terroriste du 20 novembre, souligne Sidi Keita, directeur adjoint de l'Office national malien du tourisme.
Nous n'avons pas perdu espoir. Nous savons que dans l'immédiat, il y a eu des annulations en cascade des hôtels et il y a eu brutalement beaucoup de manifestations publiques qui ont été par la suite annulées. Mais nous avons bon espoir.
En juin dernier, l'accord de paix signé par les séparatistes Touareg et le gouvernement malien a suscité chez les Maliens l'espoir d'une sortie du tunnel après 3 années de crise. Mais sa mise en œuvre s'avère difficile. Le pays reste par ailleurs en proie à divers groupes djihadistes qui commettent des actes de violence, comme ceux du Radisson Blu de Bamako. En ce qui concerne les touristes étrangers, il y a longtemps qu'ils ont déserté le Mali, regrette l'artisan Modibo Nimaga, dont le magasin est situé au marché touristique de Bamako.
Avant, c'est plus que 80, mais maintenant, on fait un mois, on voit même pas des blancs ici.
Moussa Ismaïla Touré, lui, dirige une agence chargée de la promotion du Mali auprès des investisseurs. Il se dit optimiste que l'attaque du 20 novembre n'affectera pas les investissements.
2014 a été particulièrement faible, où on est resté autour de 40 milliards. Mais 2015, ça s'annonce nettement meilleur, puisque déjà, on n'est pas loin de 100 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vraie reprise. Et bon, les événements actuels vont forcément ralentir un peu les choses, mais nous espérons que ça ne va pas tarder.
La croissance économique devrait ralentir à 4,9% en 2015, selon le FMI, en raison d'une production manufacturière affaiblie.
Burkina Faso, dernière ligne droite à l'approche des élections présidentielles et législatives prévues dimanche. À quelques jours de cette échéance cruciale, les organisations de la société civile se mobilisent pour que ce double scrutin prenne non seulement en compte les aspirations des populations, mais surtout se déroule dans un climat de transparence et d'acceptation des résultats par tous. L'UMD-BHP, organisation de la société civile, veut être les yeux et les oreilles du peuple burkinabé. On écoute son coordonnateur, Lansena Saint-Poré.
Nous avons opté de faire une observation qualitative. Toutes les 45 provinces sont couvertes et nous avons des gens qui seront fixés dans les bureaux de vote. Les observateurs sont tenus de suivre de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats et tout. Au niveau de chaque province, après les élections, chaque province va faire ses constats. Et le jour là, nous avons demandé, le président l'a dit, on fera appel à vous pour donner notre point à chaud. Parce que dès donc la clôture des bureaux de vote, nous devrons recevoir à notre niveau tous les points au niveau donc des 45 provinces du pays.
Voilà, c'était Lansena Saint-Poré, coordonnateur du MDBHP, au micro de notre correspondant au Burkina, Issa Napon.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nouvelle prorogation de la transition en RCA, décision annoncée aujourd'hui par la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le décret en ce sens, signé par le leader gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de l'organisation, stipule que la transition politique en RCA est prolongée du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 pour permettre aux autorités centrafricaines d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes avant la fin du mois de mars 2016. En RDC voisine, mise en garde de l'Église catholique à un peu plus d'un an de la fin du mandat du président Joseph Kabila et des prochaines échéances électorales. Les évêques du pays ne cachent pas leurs préoccupations et ils proposent une série d'initiatives dont nous parle l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La situation du pays est préoccupante et même inquiétante. Quand on voit l'approche des échéances électorales, ça apporte son lot de restrictions de liberté, d'intimidation. Alors en père spirituel, ils ont voulu lancer un appel pour l'engagement de tous pour la paix d'abord, mais aussi pour le respect de la Constitution. Pour nous, c'est le respect de la Constitution, la sauvegarde de la démocratie et aussi de l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi, en tant que père spirituel, il lance 4 initiatives comme action. D'abord, une neuvaine de prières à partir du 8 décembre. Dans toutes les paroisses, les chrétiens vont se mettre à prier pour la paix dans notre pays. Deuxièmement, la marche du 16 février, marche historique, ça sera le 24e anniversaire. Les évêques appellent encore à une nouvelle marche pacifique pour plus de démocratie dans notre pays. Troisième initiative, ce premier samedi du mois, dans le groupe d'action catholique, les chrétiens vont se réunir pour prier aussi pour la paix, pour la justice, pour la démocratie. Et quatrième initiative, c'est au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en janvier du 18 au 25, qu'il y ait donc la prière avec d'autres confessions sur la paix.
L'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. La tournée du pape en Afrique maintenant. Le pape François continue sa visite à Nairobi au Kenya, première étape de son périple africain. Dans la matinée, il a appelé les Kenyans à défendre la famille lors d'une messe dans la capitale kenyane, après avoir mis les jeunes en garde contre l'extrémisme dans un pays régulièrement frappé par les attaques des islamistes radicaux comme les Chebabs de la Somalie voisine. Plus de détails sur le message papal pendant cette tournée avec le président de la Conférence épiscopale du Burundi, Mgr Gervais Banchimi Yubusa, contacté par Eric Manirakiza.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être et en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
Monseigneur Gervais Banchimi Yubusa, Juan Ngozi, dans le nord du Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis, ici à Washington, sérieuses inquiétudes des militaires américains après l'annonce par la Russie qu'elle allait déployer des missiles anti-aériens. Dernier cri sur une de ses bases en Syrie. Lionel Gaïma.
Moscou a annoncé envoyer ses systèmes S-400 sur la base de Latakia située dans l'ouest de la Syrie. Les missiles S-400 ont une portée de 400 km et représentent une menace éventuelle pour les avions de la coalition menée par les États-Unis. Celle-ci a effectué depuis plus d'un an environ 8000 frappes en Irak et en Syrie contre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie bombarde également depuis plusieurs semaines le groupe État islamique ainsi que les opposants au régime de Bachar al-Assad en Syrie, mais dans des zones différentes de celles visées par la coalition. Moscou et Washington se sont mis d'accord sur un minimum de coopération afin d'éviter tout risque d'accident entre pilotes de deux pays, mais la perspective de voir des batteries de missiles anti-aériens déployées en Syrie n'est pas faite pour rassurer le Pentagone. Il s'agit d'un système d'armement performant qui représente une menace significative pour tout le monde, a regretté un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat. L'annonce du déploiement des missiles S-400 intervient après que mardi, l'aviation turque ait abattu un chasseur-bombardier russe le long de la frontière syrienne. Ankara affirme qu'il se trouvait dans l'espace aérien turc, tandis que Moscou assure à l'inverse qu'il a été abattu dans le ciel syrien.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.